Bonjour, bienvenue sur Acteurs Publics TV. Nous sommes en direct de la Cour des comptes pour cette 24e édition des rencontres des acteurs publics. La Cour des comptes partenaire cette année encore de ces rencontres. Trois journées de débats, d'interviews à voir sur Acteurs Publics TV autour d'un fil rouge. Secteur public, réussir la sortie de crise, c'est tout l'enjeu de ces prochains mois, de ces prochaines semaines. Merci au premier président de la Cour de nous accueillir. Bonjour Pierre Moscovici.
Bonjour, bonjour et d'abord bienvenue à la Cour des comptes. C'est un grand plaisir pour moi d'ouvrir à nouveau cet événement qui compte beaucoup aux yeux de notre institution, qui reconnaît notre rôle dans la transformation publique et qui est devenu un rendez-vous annuel que nous attendons maintenant avec impatience chaque été. C'est, je crois, la sixième année que nous vous accueillons ici. Commençons à atteindre le stade, sinon du rituel, du moins de la saine habitude. Et je suis très heureux de perpétuer ce rituel avec vous, avec, je crois, un petit peu plus de monde dans la grande chambre que l'an dernier où nous étions tous les deux un peu seuls.
Alors, merci, vous parliez de rituel. Ce rituel aussi, c'est débuté par un traditionnel question-réponse. On va commencer à parler de la finance, des finances publiques, la situation des finances publiques. L'an dernier, au même moment, vous nous disiez que les finances publiques, ce n'était pas open bar. Avez-vous le sentiment quand même que depuis un an, ça l'a été avec un « quoi qu'il en coûte » débridé et qu'il est temps maintenant de refermer les vannes ?
D'abord, je tiens à le préciser, ou plutôt à le repréciser, je me suis exprimé là-dessus à plusieurs reprises, les mesures de soutien qui ont été prises en faveur de l'activité, en faveur de la cohésion sociale, ce sont des mesures qui étaient nécessaires. Et je n'ai jamais pour ma part remis en question la légitimité de ces dépenses, de ce qu'on a appelé le « quoi qu'il en coûte ». Ça a permis à l'économie française de faire face dans de bonnes conditions, les meilleures possibles compte tenu de la pandémie, et aussi à la société française de tenir. Cela dit, à un moment donné, même si tous les pays ont adopté des mesures similaires, comme la crise semble maintenant en voie d'être surmontée, il est temps que nous ayons une stratégie de sortie de crise, bien sûr, mais aussi que cette stratégie se traduise en matière de finances publiques. La crise que nous traversons va laisser une empreinte durable sur notre économie et sur nos finances publiques. Le déficit public a été supérieur à 9% aussi bien en 2020 et il devrait l'être à nouveau en 2021. La dette publique augmente à 117 ou 118%. Les capacités de production et la productivité des acteurs, même si l'économie s'est montrée résiliente, sort tout de même affaiblie de la crise. La croissance va connaître un rebond, mais on ne peut pas tout en attendre. Et à partir de ce moment-là, oui, il faut que nous ayons une stratégie pour nos finances publiques. Et cette stratégie, ce n'est pas une stratégie austéritaire. Nous ne préconisons pas l'austérité pour sortir de la crise. Nous voulons une stratégie qui, au fond, repose sur deux piliers. C'est ce que j'ai proposé au Premier ministre et au Président de la République dans le rapport que je leur ai remis. D'abord, le renforcement de la croissance potentielle, mais aussi une réduction progressive du déficit. En matière de croissance, on connaît les axes. D'abord, l'effort d'investissement public doit être accentué, notamment dans tout ce qui est innovation, tout ce qui est recherche, tout ce qui est développement de compétences. Le saupoudrage ne fonctionne pas, il faut des priorités qui soient très claires. Et puis, les transitions jumelles, transition écologique d'une part, transition numérique de l'autre. Et enfin, et ça j'y tiens beaucoup, c'est renforcer nos capacités de résilience. Si j'ai une leçon à tirer de la réponse de la France face au Covid, et notamment des pouvoirs publics, c'est que nous avons été excellents dans la réaction, mais moins bons dans l'anticipation. Ça, c'est peut-être une de nos caractéristiques françaises. Il faut que nous soyons capables de mieux analyser les risques pour mieux les maîtriser. Et puis, derrière ça, il y a la question de la maîtrise des finances publiques, de la maîtrise des déficits publics pour permettre d'avoir une trajectoire de dette publique qui soit soutenable dans le moyen terme. Et là, nous avons aussi des propositions très précises. Il y a d'abord une question de temporalité. Quand est-ce qu'on commence ce qu'on appelle la consolidation ? Je pense que 2021 et 2022 doivent être des années essentiellement consacrées à la musculation de l'économie française, au rétablissement de la compétitivité, de la productivité de l'économie française, avec tout de même des finances publiques sérieuses. Mais à partir de 2023, on doit engager un effort de consolidation qui soit tout à fait sérieux et responsable, avec une perspective, c'est d'inverser clairement la courbe, la trajectoire de notre endettement public à partir de 2027. D'autres rapports proposaient d'attendre 2030, ça me paraît trop lointain. Ça me paraît incertain. La France ne peut pas décrocher par rapport à ses partenaires européens. La soutenabilité n'attend pas. Donc, il va falloir trouver la bonne temporalité et aussi, bien sûr, la bonne façon de faire. Et là, je le dis, oui, la croissance est très importante, mais on ne peut pas tout attendre de la croissance. Je pense que le levier fiscal est un levier qu'on doit utiliser avec parcimonie et prudence, c'est-à-dire que si on fait des hausses d'impôts, ça peut arriver, il faut qu'il y ait des baisses qui soient concomitantes, il faut être, je crois, conscient de les limites de l'acceptabilité des prélèvements obligatoires en France, et donc ça veut dire que c'est la dépense publique qu'il va falloir maîtriser avec une meilleure gouvernance de nos finances publiques.
Alors, la Cour, vous le disiez, a rendu donc deux rapports sur les finances publiques en juin. Un demandé par le Premier ministre sur la stratégie de l'après-crise en matière de comptes publics. Un autre fin juin, c'était le traditionnel rapport sur les perspectives des finances publiques. Dans les deux cas, la Cour insiste, et vous le rappeliez, sur une maîtrise de la dépense publique. Dans le rapport au Premier ministre, le rapport tourne la page du quoi qu'il en coûte, mais en évitant de pousser, c'est ce que j'ai pu relever, ce qu'on a pu voir dans ce rapport, éviter de pousser aux erreurs de la sortie de crise de 2009. Vous préconisez de cibler, en gros, les grandes masses budgétaires, les retraites, l'assurance maladie, les aides au logement, plutôt que le coup de rabot qu'on a pu avoir dans les années début 2010, avec ce qu'on a vu avec les RGPP, le coup de rabot général, qui affaiblit d'une certaine manière l'action publique. Là, vous dites attention quand même. Ne nous trompons pas de cible si on doit entamer une maîtrise stricte des finances publiques.
Oui, on doit, je pense, tirer les leçons des crises précédentes. Notre économie, elle sort convalescente de cette crise. Elle doit encore se rétablir, je le dis, elle doit se muscler, elle doit retrouver des forces. Et on doit l'aider à trouver ses forces. Ça veut dire qu'il peut y avoir des nécessités d'investissement public. J'ai cité notamment l'innovation, la recherche, le développement des compétences sont des sujets absolument massifs sur lesquels nous ne sommes pas forcément en avance. Et donc, je ne préconise pas, la Cour ne préconise pas un rabot sur la dépense publique. Je rappelle aussi ce que je dis sur la temporalité qui est très important. S'agissant des mesures, mieux vaut les débrancher trop tard que trop tôt. Il y a encore des secteurs de l'économie française qui auront besoin d'être soutenus, d'être aidés, d'être accompagnés dans leur rétablissement. On pense à l'hôtellerie, on pense au tourisme, on pense au secteur aéronautique, par exemple, peut-être à l'automobile. Ça fait partie des débats qui sont devant nous. Donc non, pas de rabot et pas non plus de coup de patin sur les dépenses publiques qui viendraient tuer une croissance qui, au contraire, renaît. Donc, temporalité, plutôt à partir de 2023, et sélectivité, priorité. Alors, vous citiez un certain nombre de grandes masses. Nous ne les avons pas choisies au hasard. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons comparé les secteurs sur lesquels nous avions, en termes de pourcentage dans le PIB, une part de la dépense publique beaucoup plus importante que nos partenaires européens, avec une efficacité en matière de services publics comparée, qui n'est pas avérée. Autrement dit, le surcroît de dépenses ne correspond pas forcément à un surcroît d'efficacité de même ampleur. Et c'est là où il faut porter l'effort. Encore une fois, pas non plus par un coup de rabot. Nous ne préconisons pas de mettre un coup de massue sur telle ou telle dépense. Nous proposons à chaque fois de réfléchir à ces dépenses publiques pour les sans doute maîtriser, mais le faire avec un processus qui soit un processus de réforme. Et c'est vrai que nous avons identifié un certain nombre de secteurs, nous avons identifié 5. D'abord, le système des retraites, malgré des réformes nombreuses, il y en a eu beaucoup depuis 1993, qui ont eu un impact positif et sur le système lui-même et sur son coût. Il reste encore des efforts à faire pour accroître l'équité du système des retraites. Alors, bien sûr, il y a la question de la temporalité. Ce n'est pas à nous de dire quand et comment on doit le faire. Ce que nous soulevons simplement, c'est le fait qu'il faut une concertation approfondie, qu'il faut aussi que les choses soient suffisamment étalées dans le temps, parce qu'une bonne réforme des retraites est une réforme qui est acceptée, partagée. Je suis quand même l'actualité, la Cour des comptes n'est pas à l'écart du temps ou à l'écart des temps. C'est pas à moi de choisir le moment où on le fait, la manière dont on le fait, mais nous avons quelques propositions de méthode. Et puis, il y a aussi l'efficience et la qualité de notre système de santé, qui nécessite notamment de coordonner plus étroitement les acteurs hospitaliers et les acteurs de ville. Il y a la politique de l'emploi, pour améliorer les dispositifs d'indemnisation du chômage, d'aide à l'emploi, à l'évolution des cycles économiques, mais aussi pour renforcer l'insertion durable dans l'emploi des publics fragiles, ceux qui en sont le plus éloignés, et, ce qui est fondamental, la prévention du chômage longue durée. Il y a les minima sociaux, qui peuvent être plus efficaces, qui peuvent être plus équitables, qui peuvent aussi mieux inciter à l'activité. Et enfin, il y a, j'y insiste, la simplification, la territorialisation de la politique du logement avec un objectif social qui est de cibler en priorité les ménages les plus défavorisés. Voilà, donc sans doute de la maîtrise intelligente, de la maîtrise sélective avec des priorités et à chaque fois avec un processus de réforme, réforme qui suppose qu'on travaille toujours sur cette notion fondamentale qui est l'équité.
Alors, la Cour préconise aussi d'alléger les procédures administratives et le poids des normes, comme ça a pu être le cas pendant la crise sanitaire. Vous demandez en gros de pérenniser un certain nombre d'allègements en tirant profit notamment des outils numériques. C'est quelque chose, donc là, c'est d'une certaine manière, vous dites, investissons dans le secteur public, dans l'action publique, dans la modernisation des outils.
Oui, vous avez compris que la Cour, telle que j'essaie de la rénover, de poursuivre sa transformation après mes prédécesseurs, cette Cour, elle est là pour être une vigie qui est utile aux citoyens et qui est à l'écoute du citoyen, qui tient compte aussi de ses propres demandes et qui est utile à la transformation de l'action publique dans un cadre global. Autrement dit, non, la Cour d'antan qui pouvait juger que toute dépense publique était suspecte, c'est pas la Cour, je crois, d'aujourd'hui, c'est pas celle qu'on attend. C'est bien sûr une institution qui est sérieuse, c'est une institution qui est là pour s'assurer qu'on dépense bien. Et plus on dépense, mieux on doit dépenser. Donc c'est l'efficience et l'efficacité qui doivent être assurées. Mais c'est la transformation de l'action publique qui doit être visée. C'est pour ça que, de manière un peu subtile, il faut aller aussi vers plus d'évaluation de politique publique dans chacune de nos approches. Et donc nous proposons en effet de procéder à une revue des missions des administrations, de développer la contractualisation pluriannuelle sur les objectifs et les moyens en contrepartie d'une plus grande liberté de gestion, de simplifier encore l'organisation des administrations, d'alléger les processus, les procédures administratives et les normes, et puis de favoriser la transparence et l'évaluation des politiques publiques. Et là, oui, je le dis, nous avons, nous, un rôle à jouer. Nous sommes la seule institution qui a un rôle constitutionnel reconnu en la matière, et j'entends bien développer encore l'évaluation de politique publique à la Cour et dans les chambres régionales de comptes. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et ce que je souhaite, c'est que d'ici à 2025, nous multiplions par 4 ou 5 les ressources que nous consacrons à l'évaluation de politique publique. Aujourd'hui, ça représente à peu près 4 à 5% de nos moyens qui sont consacrés à l'évaluation de politique publique. Je voudrais, et ça se fera, qu'en 2025, ce soit 20%.
Alors, la Cour appelle aussi à renforcer l'efficience de l'ensemble des collectivités et des administrations publiques et d'appliquer le principe de subsidiarité. Vous connaissez bien en tant qu'ancien commissaire européen. En gros, le meilleur échelon s'impose pour conduire telle ou telle politique. Est-ce qu'il faut aller vers une autre étape de décentralisation ? C'est cela que réclame la Cour. En gros, la loi 4D qui sera examinée au Sénat à partir de mercredi, ce n'est pas suffisant. Vous demandez d'aller plus loin pour affirmer ce principe de subsidiarité qui a du mal quand même à se mettre en place en matière d'action publique en France.
Nous faisons des suggestions, mais il n'y a pas de grande réforme de décentralisation qui est proposée par la Cour des comptes. Il y a simplement une réflexion de bon sens qui est celle que vous dites, c'est-à-dire qu'effectivement, d'abord, il ne faut pas multiplier les échelons et les confusions de compétences. Autrement dit, il faudrait qu'à une mission corresponde de manière générale et par principe un acteur. Et pour ça, il faut sans doute simplifier encore le millefeuille administratif. Il faut territorialiser les politiques. J'évoquais tout à l'heure la politique du logement. C'est pas une réforme qui est une réforme de maîtrise de la dépense uniquement que nous proposons. C'est une réforme de territorialisation pour l'équité, pour cibler encore une fois les publics qui sont les plus défavorisés. Donc oui, sans doute il faut aller plus loin en la matière. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Nous le faisons à travers nos rapports sur les finances publiques locales. Nous esquissons ici des pistes, mais c'est le législateur qui est maintenant saisi d'une loi, la loi 4D. Et d'ailleurs, je mentionne au passage qu'il y a une disposition à laquelle je tiens beaucoup, qui concerne la Cour des comptes et le citoyen, qui est tout à fait fondamentale. C'est que Mme Bourreau, sur ma proposition, a accepté d'introduire une disposition législative dans le cadre de la loi 4D qui permettra demain aux chambres régionales et territoriales des comptes de procéder à des évaluations de politique publique locale, de le faire en réponse à des demandes des exécutifs locaux. Alors on verra lesquels, régions, départements, métropoles, peut-être d'autres, ça c'est dans la discussion parlementaire. Et ça permet aussi d'avoir une connaissance plus fine des politiques publiques à l'échelle locale, de renforcer le rôle des chambres régionales et territoriales des comptes, qui sont devenus des interlocuteurs extrêmement précieux pour nos collectivités. Je prends l'exemple d'un rapport qui vient de sortir, le rapport sur les algues vertes en Bretagne. Nous faisons déjà de l'évaluation de politique publique. Grâce à la loi 4D, nous pourrons en faire cette fois de manière tout à fait légale et dans un cadre, j'allais dire, d'échanges coopératifs avec les collectivités locales.
On va parler dans un instant de la réforme des juridictions financières que vous avez entamée depuis votre arrivée ici dans le siège de Premier Président. Mais quel rôle doit jouer la Cour dans cette période difficile? Justement, vous avez parlé de vigie. Est-ce que ce rôle doit évoluer? Est-ce qu'on est toujours à équidistance de l'exécutif et du Parlement? Est-ce que vous êtes un partenaire de l'exécutif dans le pilotage des finances publiques? Une sorte de conseiller, de conseil financier du gouvernement? Vous vous voyez comme ça, la Cour, désormais?
Non, la Cour reste ce qu'elle est, c'est-à-dire une grande institution indépendante, une juridiction. Je tiens fondamentalement à ce caractère juridictionnel, écoutée, respectée. Et justement, écoutée, respectée parce qu'elle est indépendante et parce que ses travaux reposent toujours sur des analyses objectives et étayées. Et ça, si nous renoncions à l'indépendance, alors à ce moment-là, nous abandonnerions petit à petit non seulement notre identité, mais une partie de notre crédibilité. Donc cette équidistance entre le gouvernement et le Parlement, entre l'exécutif et le législatif, elle doit demeurer et l'indépendance doit être confortée, comme notre rôle juridictionnel doit être encore accentué. D'ailleurs, je veux moderniser ça aussi. Je crée... sera nommé dans quelques semaines un nouveau président de chambre, une septième chambre chargée justement du juridictionnel pour muscler encore notre capacité en la matière, un peu à l'image de ce qu'a fait le Conseil d'État avec la section du contentieux. Nous aurons notre chambre juridictionnelle et je souhaite aussi, je le dis, qu'il y ait une unification de la juridiction des ordonnateurs et des comptables sous l'égide de la Cour des comptes, ce qui me paraît, je pense, la chose la plus logique du monde. Cette évolution, elle est inscrite, je crois, non pas dans les astres, mais simplement dans les évolutions technologiques, dans les évolutions des textes. Mais il faut trouver le bon juge. Le bon juge, c'est la Cour. Mais cela étant dit, il y a maintenant un peu plus d'un an que je suis Premier Président, et j'avais dit que je souhaitais que la Cour soit dans le temps de la décision, qu'elle soit utile. Et pour ça, il faut aller plus vite. Il faut effectivement être capable de répondre à des demandes de conseil. Il faut pouvoir produire ce qu'on appelle les audits flash, rapides. L'audit que la Cour a produit à destination du Premier ministre et du Président de la République, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, parce que c'est du 360 degrés. On y mêle l'économie, les politiques publiques, les finances publiques, bien sûr. Nous devons être capables de faire des opérations coup de poing, réduire nos délais, être à l'écoute des citoyens, répondre à des demandes citoyennes et aussi procéder à beaucoup plus d'évaluation de politique publique. Enfin, intégrer davantage ce qui fait notre spécificité, c'est-à-dire l'échelon national et l'échelon territorial, la Cour des comptes ici, rue Cambon, et les chambres régionales et territoriales des comptes. Et demain matin, par exemple, je présiderai le nouveau comité du rapport public et des programmes, où pour la première fois, 6 présidents de chambres régionales et territoriales des comptes siégeront aux côtés des 6 présidents de chambres de la Cour des comptes pour montrer cette intégration commune. Vous voyez, je souhaite non pas une révolution, non pas une mutation, mais je souhaite plus de rapidité, plus d'écoute des demandes citoyennes, plus d'inscription dans le temps présent. Et je pense que c'est ainsi que nous renforcerons encore le respect et l'écoute que nos concitoyens nous accordent. Et c'est comme ça que nous contribuons à la transformation publique en temps réel. C'est ça qui est fondamental. Quand un rapport arrive 15 ou 17 mois après, il est formidable, passionnant, souvent, le plus souvent, d'une qualité reconnue et connue, mais souvent les décideurs publics sont passés à autre chose. Et le temps de la décision publique s'accélérant, nous devons aller, nous aussi, de pair avec ce temps-là. Et nous devons être en dialogue avec aussi bien le Parlement que les exécutifs locaux, que l'exécutif national, disponible, mais indépendant.
Alors on a compris la grande réforme que vous menez en interne, juridiction financière JF 2025, c'est pour coller aux nouveaux enjeux, aux nouveaux calendriers, à la rapidité aussi d'action de l'exécutif qui a besoin des rapports de la Cour aussi pour agir au mieux. Quand vous êtes arrivé dans le fauteuil de Premier Président, est-ce que vous êtes aperçu très vite qu'il fallait bouger justement dans ce sens-là, qu'il y avait peut-être un risque avec peut-être la lourdeur de certaines procédures, un risque peut-être de ringardisation, de décalage peut-être entre les attentes des citoyens, de l'exécutif, et qu'il fallait bouger.
D'abord, je suis venu ici, non pas à l'insu de mon plein gré, mais de manière tout à fait volontaire, pas pour terminer une carrière, celle-là elle était faite, mais pour apporter mon expérience d'un homme qui a été dans des exécutifs locaux, qui a été ministre pendant 7 ans, qui a été commissaire européen, qui a rempli un certain nombre de fonctions, qui était parlementaire européen, apporter cette expérience au corps où j'ai commencé ma vie professionnelle, la Cour des comptes, avec l'idée, justement, de lui permettre de s'inscrire pleinement dans ce temps où nous vivons. Et puis, je suis aussi arrivé ici au sortir du premier confinement. Et j'ai eu le temps, puisque l'intérim a été long, d'observer ce qui allait et ce qui n'allait pas, non pas tant à la Cour, mais dans le rôle que nous pouvions jouer dans l'écosystème public à ce moment-là. Par exemple, la Cour n'avait pas délivrée, parce qu'elle ne le pouvait pas, et elle n'avait même pas prévu de faire de rapport sur la crise Covid. Non, ça c'est plus possible quand nous sommes dans le temps des crises, crise économique, crise sociale, crise financière, crise pandémique, et nous devons être capables d'être en réponse à ces crises plus vite, parce que c'est ça qu'on attend, de l'expertise, de la connaissance qui permettent ensuite aux décideurs de prendre les mesures adaptées. Et donc je me suis fait cette réflexion sur le temps qui passait, sur la nécessité, encore une fois, d'aller plus vite, de coller non pas à l'actualité, mais simplement aux besoins de la société. Et la Cour a des atouts absolument formidables. Non, elle n'est pas du tout en risque de ringardisation, mais elle doit bouger avec ce temps des crises, avec cette transformation formidable de l'action publique, avec cette européanisation aussi. D'ailleurs, je dis que dans notre rapport, nous faisons aussi des propositions très fortes pour modifier la gouvernance des finances publiques européennes. Et je souhaite que nous soyons beaucoup plus présents, nous, en tant qu'institution, là-dessus. Donc, cette institution qui est unique, et je parle de la Cour et des CRTC, je pense qu'elles ont maintenant des atouts formidables à jouer et qu'elles doivent les jouer dans cette période précise où nous sommes. Je suis arrivé à ce moment-là, j'ai fait ce diagnostic et je me suis immédiatement lancé dans ce chantier de transformation dont je vois qu'il avance vite, heureusement. J'ai mentionné la création de la 7e Chambre, je mentionne l'évaluation des politiques public local, la modification de la gouvernance de la Cour des comptes. J'essaye d'avancer de manière résolue, à grande guide, mais aussi en entraînant les juridictions financières, parce que ça a été un projet participatif, déjà de deux phases, des questionnaires extérieurs, intérieurs, des ateliers, des centaines de magistrats et de personnels qui sont mobilisés. Maintenant, nous sommes dans la phase des relations humaines et sociales. Voilà, c'est cette mission qui me passionne, contribuer à la transformation dans le respect de son identité, d'institutions séculaires et respectées, pour qu'elles soient des vigies, mais aussi des acteurs de la transformation publique.
Alors, l'un des enjeux de cette réforme, toutes les transformations que vous avez engagées, et la réforme, c'est aussi l'attractivité de la Cour, pour continuer à attirer les meilleurs, surtout avec la réforme de l'accès au grand corps, l'accès à la Cour des comptes. C'est quelque chose que vous avez pleinement intégré, cela ?
Oui, j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur la réforme de la haute fonction publique, chez vous d'ailleurs, oui. Dans Acteurs publics, c'est le seul endroit où je l'ai fait. Merci de m'avoir donné cette occasion. Je pensais aussi que c'était le lieu pertinent pour le faire. Moi j'ai exprimé ma reconnaissance à l'égard de l'ENA. Je pense qu'on est parfois ingrat avec cette école, qu'on la caricature, qu'elle a permis justement à des profils qui n'avaient pas auparavant accès à des rôles comme celui de membre d'un grand corps, justement d'y parvenir. C'est mon cas. Moi, je suis le fils d'un homme qui était encore apatride quand je suis né en 1958. Mes 4 grands-parents ne parlaient pas le français, ce n'était pas leur langue maternelle. Et je pense que dans un système pré-ENA, il n'y avait pas de place pour quelqu'un comme moi dans une institution comme celle-ci. Je ne parle pas dans ce fauteuil, mais je parle dans l'institution elle-même. Donc, ne soyons pas ingrats à l'égard d'elle-même, de l'ENA, mais ne soyons pas non plus conservateurs ou nostalgiques. Voilà, il y a une réforme. Eh ben, il faut maintenant la réussir. Et il y a les vrais enjeux qui sont soulevés à travers cette réforme, je pense à l'enjeu de la diversité sociale, car incontestablement, il y avait trop d'homogénéité sociale à l'ENA. Les choses s'étaient un peu rigidifiées. Et puis, à côté de ça, aussi diversité des savoirs. Dans une maison comme celle-ci, je parlais d'évaluation de politique publique, on a besoin de recruter des généralistes, des juristes, mais aussi des économistes, des scientifiques, des médecins, toute une diversité. Et ça, la réforme peut nous permettre cette opportunité de diversifier encore nos recrutements, qui le sont d'ailleurs déjà beaucoup. Et c'est pour ça que moi, je ne l'aborde pas à reculons, je l'aborde avec l'idée d'aller de l'avant. Alors bien sûr, j'ai tenu à défendre non pas les intérêts de la Cour en tant que corps, je dis toujours, je ne préside pas un grand corps, je ne suis pas le chef d'un grand corps, je suis le président d'une institution de la République. Ce n'est pas du tout la même chose, qui se trouve par ailleurs être un grand corps de l'État. Mais le fait de pouvoir recruter des jeunes à INSP plus 2, je crois que c'est une bonne chose. Le fait tout de même de garder en partie la maîtrise de nos recrutements, que ce soit à INSP plus 2 justement ou à INSP plus 5 au moment de l'intégration, il y a eu cette querelle sur la présidence des commissions d'intégration, on verra bien. Ça n'aurait pas été, à mon avis, extrêmement coûteux de donner cette présidence au vice-président du Conseil d'État et au premier président de la Cour des comptes, d'ailleurs que la commission est paritaire sans voix prépondérante. Mais nous verrons comment les choses se font, ça n'a pas grande importance. Ce qui compte, c'est que la commission d'intégration ait lieu et qu'elle soit paritaire et que le premier président de la Cour des comptes, pour ce qui nous concerne, y soit. Je pense que sa voix sera ensuite peut-être un tout petit peu écoutée parce qu'on connaît justement les besoins de la maison. Et bien, tout ça, ça permet, je pense, d'avancer. Après, les choses ont changé. Le classement de l'ENA était une forme d'attractivité en soi, j'allais dire décrétée de l'extérieur. Maintenant, il va falloir la conquérir, il va falloir la prouver, la démontrer, il va falloir donner aux jeunes, ou aux moins jeunes, qui sortent de l'INSP ou qui viennent d'ailleurs, l'envie de venir à la Cour des comptes. Et pour ça, c'est la logique métier, c'est ce que nous faisons, c'est le déroulement de nos travaux, mais aussi de nos carrières, qui doit être valorisé. Et de ce point de vue-là, je pense que, oui, ça tombe bien qu'il y ait, je ne veux pas être dans les sigles, ça tombe bien qu'il y ait JF 2025, la réforme des juridictions financières 2025, à côté de la réforme de la haute fonction publique, parce qu'une cour plus puissante et des chambres régionales des comptes plus intégrées, des institutions qui sont dans leur temps, qui sont encore plus écoutés, qui participent à la logique de transformation publique, qui sont partie prenante à la décision publique, et oui, c'est sans doute plus attractif, bien sûr. Et donc, il fallait ça. Parce que si nous étions restés dans une logique un peu statique alors qu'arrivait cette réforme, alors là, nous aurions été davantage, je crois, percutés. Je suis confiant, optimiste, mais je sais aussi que ça va nous obliger à modifier notre politique de relations humaines, à être ce que nous n'avons jamais été, je ne dirais pas agressif, mais en tout cas un peu plus offensif. Oui, je m'occuperai personnellement du recrutement à la Cour des comptes en faisant valoir son attractivité, aux Chambres régionales des comptes aussi, à travers toutes les caractéristiques que j'ai eu l'occasion d'évoquer avec vous depuis que nous parlons.
Merci Pierre Moscovici d'avoir ouvert ces 24e rencontres des acteurs publics. Merci encore de ce riche partenariat entre la Cour et notre titre. À vous qui nous regardez, restez bien sur Acteurs Publics TV. Nous allons continuer à parler finances publiques dans un instant avec notre premier grand débat de la rédaction autour de Sylvain Henry. Nous retrouverons le président de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale, Éric Woerth, le président de la première chambre de la Cour des comptes, Christian Charpie, l'universitaire Émilie Moisan-Janard et l'économiste Nicolas Bouzou. Très bonne journée sur Acteurs Publics TV. À très bientôt. À tout de suite.